Philippe Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
Lettre ouverte hier dans le Journal de Montréal, dans la section « Faites la différence » du ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui est écrit « Changement climatique, c'est maintenant que nous devons agir ». Ça tombe bien, on avait plein de questions pour lui. Monsieur Guilbeault est avec nous. Bonjour, Monsieur Guilbeault.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est maintenant le temps d'agir? J'ai l'impression que ça fait comme 6 ans que le gouvernement dit ça.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites depuis 6 ans. Et d'ailleurs, quand on regarde les inventaires des émissions de gaz à effet de serre, depuis 2019, la pollution diminue au Canada, malgré, par exemple, une hausse de la production pétrolière. Notre plan, il commence à fonctionner, mais évidemment, ça prend beaucoup de temps. C'est pas comme si on allumait un interrupteur pour commencer à changer les façons de faire de 38 millions de personnes, de milliers d'entreprises partout à travers le pays. Ça demande un certain temps. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on va lancer des consultations nationales pour la mise en place d'une stratégie sur l'adaptation. Donc, comment on se prépare aux impacts des changements climatiques? Parce que ça, il faut le dire, le Canada, comme la plupart des pays dans le monde, en fait, n'est pas préparé.
Donc, plus d'incendies, plus d'inondations, de sécheresses, de...
Tout ça, exactement. Et parfois, si on regarde en Colombie-Britannique, tout ça presque en même temps. Alors, l'été passé, en Colombie-Britannique, on a eu des vagues de chaleur records. Il y a 2 fois plus de personnes qui sont décédées dues aux vagues de chaleur au Canada l'année passée que la moyenne des dernières années. On a eu des feux de forêt records et on a eu des inondations. Les inondations qu'il y a eu en Colombie-Britannique l'an passé vont probablement être l'événement climatique le plus dispendieux, le plus cher de l'histoire du Canada.
Puis on s'attend à avoir d'autres. On s'attend à ce que ça coûte de plus en plus cher.
Ben, lorsqu'on regarde les données, par exemple, du Bureau de l'assurance du Canada ou d'autres organismes semblables, il y a une augmentation depuis les années 70 du nombre de catastrophes naturelles extrêmes et du coût, pas d'année en année, mais quand on regarde en moyenne, effectivement, il y en a de plus en plus et ça coûte de plus en plus cher.
Est-ce qu'on a les reins assez solides comme pays pour encaisser les effets des changements climatiques qui vont augmenter de façon exponentielle?
Bien, l'idée, et c'est ce qu'on lance aujourd'hui, donc il y a un symposium où il y a des représentants de provinces, de territoires, de municipalités, d'entreprises, de groupes d'experts. On va mettre tout le monde autour de la table, donc pour faire une stratégie nationale. Alors, c'est pas une stratégie canadienne, c'est pas une stratégie fédérale sur les changements climatiques, c'est une stratégie nationale parce que il y a beaucoup de choses que le gouvernement fédéral peut et doit faire à ce niveau-là. Puis on a déjà commencé, on a déjà investi près de 4 milliards de dollars dans l'adaptation au changement climatique, la préparation. Mais le fédéral ne peut pas tout faire. Il y a des choses qui sont dans les champs de compétences des provinces, dans la cour des municipalités. Alors, on va asseoir tout le monde autour de la table et voir comment on peut être mieux préparé pour faire face aux impacts des changements climatiques.
Quand vous dites c'est maintenant le temps d'agir, je pense à 2 promesses fortes que vous avez faites pour l'industrie pétrolière qui sont toujours pas en place. Je me demande pourquoi. Pourquoi on n'a toujours pas ce plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier? Puis pourquoi il y a encore des subventions qui sont versées à l'industrie pétrolière?
Bien, dans le premier cas, vous le savez très bien, vous avez été à Ottawa pendant longtemps. Vous savez que faire une nouvelle réglementation dans une démocratie comme la nôtre, ça demande un certain temps. Ça prend généralement quelques années. Nous, on va essayer de le faire en 13-14 mois, mais généralement, ça peut prendre facilement 2 ans, faire un nouveau règlement pour faire ce genre de choses-là, parce qu'il faut faire des consultations avec les provinces.
Mais avez-vous l'impression que plus on va attendre, plus ça va nous coûter cher en adaptation, puis qu'en bout de ligne, on va être perdant au change?
Bien, j'allais répondre à votre deuxième question sur les subventions aux combustibles fossiles. Les pays du G20 se sont engagés à les éliminer d'ici 2025. Nous, au Canada, on est le seul pays qui s'est engagé à les éliminer d'ici 2023. Alors, 2 ans plus tôt que tout le monde. Et ça va être fait au Canada d'ici 2023. On en a éliminé une autre dans le cadre du dernier budget fédéral. Et c'est comme ça qu'on va y arriver d'ici l'an prochain.
Quand vous regardez le prix de l'essence, je sais que vous n'avez pas de voiture, là, vous l'avez dit souvent, mais la plupart des Canadiens en ont. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Canadiens en ce moment, les agriculteurs, les camionneurs, ceux qui font du transport routier, les chauffeurs de taxi, à respirer quand le prix du gaz est à 2,15 $? Est-ce que le fédéral pourrait dire on suspend la taxe carbone, on suspend certaines taxes de vente pour aider en ce moment, temporairement, les Canadiens à tirer leur épingle du jeu, puis est-ce que l'inflation ne leur donne pas des coups de poing un peu partout, là?
Il faut comprendre que dans le système fédéral de tarification du prix sur la pollution, on a laissé aux provinces qui voulaient le choix d'avoir leur propre système, et c'est le cas du Québec. Alors, le système fédéral ne s'applique pas au Québec, puisque le Québec a son propre système. Il faut aussi comprendre que 75% de l'augmentation du prix de l'essence à la pompe, c'est les marchés mondiaux. C'est la guerre en Ukraine, c'est l'instabilité présentement au niveau international. Et ça, hélas, il n'y a pas aucun gouvernement qui a beaucoup d'emprise là-dessus. L'autre 25%, ben c'est les taxes provinciales et des choses comme ça.
Alors, le fédéral a une partie. Il y a une taxe de vente du fédéral puis une taxe d'accise. Là. Fait que vous pourriez enlever ces taxes-là. Là.
Oui, mais ça aurait un impact marginal sur le prix à la pompe.
Mais non, mais c'est exclu de la part du gouvernement fédéral d'enlever un 10-15 sous, là, ouais.
Ben, effectivement, c'est pas dans les plans. Ça veut pas dire qu'on peut pas rien faire. On peut aider beaucoup, par exemple, les gens en forçant les fabricants d'automobiles à mettre sur le marché des véhicules de plus en plus efficaces. Pour que les gens, donc là, ceux et celles qui ont besoin d'utiliser des véhicules aient accès à des véhicules plus efficaces. Il faut comprendre qu'on a tendance, par contre, au Québec notamment, mais ailleurs au pays aussi, à acheter des véhicules qui consomment beaucoup, hein, plus de la moitié des véhicules.
En même temps, il n'y a plus de véhicules électriques. On peut même pas, si on en veut un en ce moment, on peut même pas s'en acheter un.
Ben, c'est pourquoi Ottawa va forcer les fabricants à mettre sur le marché de plus en plus de véhicules électriques, comme le font à peu près plus d'une douzaine d'États américains.
Est-ce que ça, le règlement est déposé ou pas encore, ou ça va prendre une autre année ou année et demie?
On est en train de l'élaborer, mais vous avez peut-être vu au cours des derniers mois qu'il y a eu de nombreuses annonces d'investissement dans l'électrification des transports, dans la fabrication de véhicules électriques en Ontario, deux usines de composantes de batterie à Bécancour. Donc, on est en train de mettre en place une économie du véhicule électrique au Canada. Ouais. Il y avait presque rien de ça il y a à peine 2 ans. Et là, c'est des milliards de dollars qui sont investis au Canada là-dedans.
Mais si mettons, on se remettait dans votre ancien rôle, là, quand vous étiez à Équiterre, là, puis que vous entendiez le ministre dire « ça s'en vient, on travaille là-dessus », mais en même temps dire « c'est maintenant qu'il faut agir », comment vous réagiriez? Est-ce que vous seriez un peu comme déçu ou vous dites « voyons, ça va pas assez vite, j'étais un peu tanné de l'entendre », comment vous réagiriez à vous entendre aujourd'hui?
Ben, moi, je suis toujours, comme écologiste, j'ai toujours pensé qu'il fallait saluer les bons coups des gouvernements, des entreprises. Puis c'est ce que je faisais quand j'étais là, tout en maintenant la pression. Et moi aussi, je trouve encore que ça va pas assez vite comme ministre de l'Environnement. J'aimerais ça que les choses aillent plus rapidement. En même temps, on vit dans une fédération où on doit, comme je le disais, travailler avec de nombreux partenaires. On a des obligations de consulter les provinces, les territoires, les peuples autochtones. Ce sont des choses qui prennent du temps. Mais on n'a pas attendu, là. On a un prix sur la pollution pour lequel on s'est battu jusqu'en Cour suprême, qui est l'un des plus élevés au monde. On a dépassé la Californie, on a dépassé le Québec, on a dépassé la Colombie-Britannique, on va dépasser l'Union européenne l'an prochain. L'Union européenne a commencé ça en 2005. On a commencé ça au Canada en 2019. On va avoir rattrapé en peine 4 ans ce que l'Union européenne a mis presque 20 ans à faire. Et on s'est battu en Cour suprême, notamment contre le Québec, qui voulait pas qu'on le fasse là.
Parce que la crainte du Québec, c'est que vous imposiez la taxe ici parce que la bourse va pas assez haut. Là.
On avait déjà dit au Québec que leur système était équivalent. Ils le savaient. Mais bon, pour eux, c'est une question de principe. Ben, en fait, ça aide pas beaucoup la lutte au changement climatique, M. Poisier, quand on fait des batailles sur des questions de principe non plus.
Question de principe sur les caribous. Est-ce que c'est une question de principe ou est-ce que vous allez intervenir et protéger et vous assurer que les coupes forestières par endroit cessent pour pouvoir protéger le caribou au Québec?
C'est pas une question de principe. En fait, moi, j'ai une obligation par la loi de protéger les espèces en péril. C'est pas ça me tente un matin, je le fais, puis ça me tente pas, je le fais pas. C'est une obligation que j'ai. Sinon, le gouvernement fédéral peut être poursuivi pour non-respect de nos propres lois. Cela étant, ça a été difficile il y a quelques semaines au niveau des négociations avec le gouvernement du Québec.
Mais là, on en est où? Est-ce que c'est réglé ou?
Le gouvernement du Québec avait quitté la table de négociation. Il est revenu à la table de négociation Et j'ai bon espoir qu'au cours des prochaines semaines, peut-être des prochains quelques mois, on va arriver à une entente. Sinon, moi, je poursuis le travail au niveau fédéral pour que je puisse aller au cabinet, au Conseil des ministres et demander un décret d'urgence pour protéger l'espèce.
Est-ce qu'il y a un échéancier? Est-ce que vous donnez une date limite à ça? Parce qu'à un moment donné, ils vont mourir, les caribous.
Effectivement. Si c'est pas réglé d'ici l'été, c'est pas mal clair que je vais devoir aller de l'avant avec un décret.
Bon. Steven Guilbeault, merci d'avoir été là pour répondre à nos nombreuses questions. On va refaire une liste, puis dans quelques semaines, on va se reparler.
Avec grand plaisir, merci.
Bonne journée à vous, au revoir.